Oye, j'aimerais que vous puissiez, chacun d'entre vous, lire cet article. L'embryon est-il une personne? Par Pascal Idée. Je crois que c'est important et intéressant. D'abord, parce qu'on fait la personne, ça vous montre que ça vous permet de lire « Il est vivant » et de le lire en voyant. On joue sur les mots et on ne regarde pas la réalité. Vous voyez, il y a un très grand danger dans les disputes, c'est de tomber dans un point de vue partiel, particulier, partisan, et on défend une cause, ce qui s'appelle le point de vue rhétorique. On défend une cause, nous sommes tous à défendre l'embryon. Tous. Nous sommes tous à dire que, ce que le Saint-Père du reste a dit avec beaucoup de sagesse dans l'encyclique sur la vie, nous sommes tous à défendre l'embryon. Mais pour le défendre, faut-il forcément dire qu'il est une personne? Parce que je crois, si on lit cet article, et ça vaut la peine, parce que d'abord c'est par quelqu'un qui est très sympathique, qu'on aime bien, il faut toujours se rappeler sur les sujets très brûlants qu'il y a des adversaires et qu'il ne faut pas faire le jeu des adversaires en allant trop loin. La personne n'est pas un principe, c'est une manière d'être, un pos. C'est un ensemble de principes, c'est un ensemble de choses. La personne, ça nous prend tout entier, c'est concret la personne. C'est pas du tout abstrait. Alors c'est une manière d'être. L'embryon, c'est un tout petit vivant, hein, avec un capital de vie merveilleux. La virtus generativa dont parle saint Thomas, il ne faut pas l'oublier, parce qu'autrement, le père n'est plus père, la mère n'est plus mère. C'est très très important, parce que je crois que vous voyez, ça touche, la personne, ça touche à toute une vision, la théologie, et de ce qu'il y a actuellement, où on doit forcément s'engager sur le point de vue de la personne. Alors, je crois que c'est intéressant de le lire à titre de document, de savoir un peu, et puis soi-même réfléchir, qu'est-ce qu'on dirait en face d'un article comme celui-là. Qu'est-ce qu'on dirait? Voyez. Alors, je crois que pour la personne, il faudrait parler d'abord de l'âme. Peut-on parler de la personne sans parler de l'âme? Ah. Et au fond, la grosse question, c'est de savoir si l'âme est déjà dans l'embryon. Alors, peut-on répondre à cette question? Quand même, on reconnaît que le père est père, on reconnaît que la mère est mère. Et dans la personne, le corps joue. Vous le dites vous-même, quand on voit un infirme, très grand, handicapé, sa personne est très diminuée. Mais elle est diminuée, mais c'est quand même une personne. Vous voyez, à l'Arche, chez Jean Vénier, on respecte les personnes, mais on sait qu'elles sont abîmées. Et on ne les prendra pas comme modèle d'une personne. La personne implique le plus et du moins, et à quel moment il n'y a personne, quel moment la personne n'est plus là. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans position apologétique. Vous voyez, au début du siècle dernier, il y a eu des apologies effrayantes, ça n'apporte aucun prix. L'apologétique, c'est une position rhétorique. Alors que dans un discours, on soit apologète, très bien, c'est un discours. Dans un article, c'est déjà plus gênant, c'est plus froid, un article. On peut dire beaucoup plus de choses en orateur. Vous voyez, c'est la différence entre des cours où on a la personne qui vit devant soi et des cours qu'on a par un livre. On ne remplacera jamais un cours vivant. Même en prenant et en ayant soi-disant le cours, bah oui. Mais les sensibles communs et les sensibles propres. Bon. Alors c'est intéressant de voir comment on peut regarder ça et quelle serait la critique que vous feriez sur quel point. Ça m'intéresserait beaucoup. Intéressant. C'est intéressant puisque c'est dit publiquement, on peut avoir une position et savoir la position. Est-ce qu'on signerait cet article? On dira non, il vaut mieux pas. On est dans un sujet très brûlant comme celui-là aujourd'hui. Il faut faire grande attention de ne pas tomber dans une pointe apologétique, parce que l'apologétique, je crois, est terminée. Vous voyez ? Parce que l'apologétique énerve les savants. Alors, c'est pas la peine de les énerver. La magie qui énerve les savants, il faut donc avoir un langage très précis et avancer. L'apologétique existe parce que la philosophie n'existe plus. Et je suis tout à fait d'accord que la personne ne peut se parler qu'au point de vue philosophique. C'est le sujet philosophique actuel le plus important. Tout le monde traite de la personne, hein. Toutes les positions philosophiques traitent de la personne. Donc il faut qu'on voit ce que c'est que la personne. Alors, ça c'est pour vous montrer que le sujet qu'on traite de la personne est actuel. Vous dites souvent que saint Thomas est le théologien de la personne, de la nature et de la personne. Il ne faut pas tomber dans l'extrême, hein, de la nature et de la personne. Et qu'on a tout le temps la double position. Et on dit la nature de Dieu, il est un. La personne de Dieu, ils sont trois. Si vous ne prenez que la personne, vous ne pouvez plus dire que Dieu est un. Et vous dites que Dieu est trois, il est un. Donc toute la théologie de saint Thomas dépend de son traité de la très sainte Trinité et sa christologie. et les deux sommets. Le sommet contemplatif. Or, il est évident que saint Thomas a développé beaucoup sa théologie de la personne dans le mystère de la très sainte Trinité. Or, dans son prologue à la Prima Secundae, saint Thomas dit que l'homme est à l'image de Dieu par son intelligence et son libre arbitre. Non, par son intelligence. Pourquoi saint Thomas, pour caractériser la personne humaine, parle-t-il de la liberté et non pas de l'amour ? Parce que saint Thomas veut fonder la morale. Métaphysiquement, vous parlerez d'abord de l'amour. Moralement, vous parlez d'abord du libre-arbitre. Oui, saint Thomas est dans la secunda. Alors, dans la secunda, c'est la morale. La manière dont l'homme remonte jusqu'à Dieu. Bon, il remonte surtout par l'amour. Mais je n'y suis pas dans le terme. Je suis in via. La morale, c'est in via. Dans le ciel, y aura-t-il encore la morale ? Hein ? Posez-vous la question. Dans le ciel, y aura-t-il encore la morale ? Il y aura encore la métaphysique. Oui, oui. Et plus la morale. C'est curieux. Vous savez, saint Thomas distingue ce qui est in via, ce qui est dans la très sainte Trinité, ce qui est la vision de Dieu et ce qui est extra. Alors, en dehors de la vision de Dieu, il n'y aura pas in via. Vous ne pourrez plus croître dans l'amour. Vous serez arrivé à votre sommet. Et vous pourrez participer alors à l'éternité. Et vous serez des êtres qui vivent de l'éternité. Tandis que, puisque nous sommes in via, or, la secunda, c'est de montrer l'homme in via, et donc, c'est le libre arbitre, tout de suite, la volonté qui choisit. Votre responsabilité, l'amour est fondamental, et ben, au point de vue théologique, et au point de vue philosophique, l'amour est premier. Et voilà, vous voyez, là, le défaut de Descartes. Puisque pour Descartes, la volonté est avant tout une volonté d'efficacité. Et non plus l'amour. L'amour chez Descartes se réduit à l'amour passionnel. C'est terrible. Alors je comprends très bien qu'il n'y a plus d'amitié. Donc, alors pourquoi saint Thomas ? Pour caractériser la personne humaine, c'est pas pour caractériser la personne humaine. Il n'a jamais dit caractériser la personne humaine par là. Il caractérise la secunda. Et la secunda secundae. caractériser la secunda, ce n'est pas caractériser la personne humaine. C'est la personne humaine in via. D'où l'importance de la prudence. Bien sûr. Est-ce que vous aurez encore la prudence dans le ciel ? Mais ce sera uniquement la charité. C'est important quand même, hein. C'est très bien la prudence. La prudence, c'est très très bien, mais attention, hein. On ne bâtit pas sa vie uniquement sur la prudence. On bâtit sa vie sur la sagesse. La sagesse restera. La prudence, elle sera tellement transformée, il sera avant tout des rapports de charité fraternelle. Entre vous, au noviciat, parce que le noviciat c'est in cello, hein. Au noviciat, il n'y a pas beaucoup d'exercices de prudence. On vous demande d'obéir. On vous a demandé d'obéir. Vous n'êtes plus noviciat. La charité. C'est très important de bien voir dans saint Thomas les divisions qu'il donne. Bon. Alors, continuons notre recherche. Nous avons vu, puisque nous nous questionnons la question. Nous posons la question, qu'est-ce qui constitue la personne ? Bon, je vous ai dit, la personne, c'est le pos. Et c'est vrai que c'est le pos, puisque ma personnalité, elle grandit. Ma personnalité, au bout d'un certain temps, on arrive à haut plateau. Puis ma personnalité diminue. À partir d'un certain âge, la personnalité diminue. C'est curieux. Alors, est-ce que dans une vie religieuse, la vieillesse fait diminuer la vie religieuse ? Ou bien non, l'inverse. Est-ce que la vieillesse fait diminuer la personne ? Bon, la vieillesse fait diminuer certains éléments de la personne, ça c'est sûr. Mais elle permet à d'autres éléments d'être plus présents. Et alors là, c'est déjà, j'entame un chapitre que j'espère qu'on aura le temps de voir, la diversité des personnes humaines. Il y a des caractères très différents. Et vous voyez, la simple question de montrer que la personne humaine varie. Vous aviez déjà votre personnalité humaine quand vous êtes entré au couvent. Votre personnalité est beaucoup plus parfaite lorsque vous avez reçu le sacerdoce. votre personnalité humaine change énormément dans votre vie apostolique. Votre personnalité humaine grandit jusqu'à un certain sommet. Mais votre prudence humaine n'est plus la même quand vous avez 70 ans ou quand vous en avez 45. Donc oui, il faut bien voir. C'est peut-être par là qu'on comprend le mieux ce que c'est que la personne. Qu'on voit qu'elle se modifie. Alors que les principes, l'intelligence, est-ce que mon intelligence varie ? Elle varie peut-être dans l'exercice, mais mon intelligence, elle est la même. Elle pénètre plus, elle est plus pénétrante, elle s'étend davantage quand on a une vie très active, mais elle risque de perdre en pénétration. Chez le contemplatif, elle gagne en pénétration et elle se restreint en activité, en extension. Oui, votre personne change. Et il y a à voir la différence d'un principe qui se modifie lui aussi dans son exercice. Mais il ne change pas. Mon intelligence n'a pas changé. Mais ma personne a changé. Elle s'est modifiée. Elle a pris un caractère différent. Donc, dans la personne humaine, je vois, on a vu l'autonomie. Oui, et l'autonomie, c'est l'âme. Alors, c'est ça que l'embryon, l'autonomie, c'est fameux. Or, je crois que l'autonomie, c'est la première dimension de la personne. L'embryon est totalement dépendant de son milieu. C'est forcé, c'est le problème de l'embryon. Vous ne pouvez pas, on a toute la peine possible de changer de milieu, c'est la grosse question. Hein. Vous pouvez, pour la fécondation de l'œuf, arriver à un certain degré, mais après, non. Le milieu, on n'arrive pas à retrouver le milieu maternel. Et je crois qu'on n'y arrivera jamais. Alors, il faut se demander pourquoi. C'est une question qui est très importante. Est-ce qu'on peut fabriquer un milieu maternel ? Le milieu maternel le plus parfait, ça a été la maternité de Marie. Alors, celui-là, c'est évident qu'il relève du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est quand même très important, ça. Donc, ce milieu maternel peut devenir divin. Oh. Il est divin en Marie. Et comment peut-il devenir divin ? C'est grâce au sensible propre. Vous voyez, ce serait quelque chose de très intéressant. Au point de vue théologique, hein. Et c'est très actuel, hein, puisque c'est la maternité. Pour nous, la maternité doit être étudiée dans son sommet. La maternité humaine a été une maternité divine en Marie. Cette transformation de l'humain en divin. Normalement, alors quand vous dites la nature, n'est-ce pas ? La nature est ordonnée au divin. Ah, quel ordre ! Et je crois qu'on doit le regarder du côté de la personne. La personne est ordonnée au divin. Oui, dans la fameuse querelle sur la grâce et la nature entre dominicains et jésuites, qui, dans le siècle précédent, en plein milieu, vers 1950, à peu près, la querelle a été très forte. Père de Lubac et puis le père dominicain de Toulouse. La lutte a été très forte. Eh bien, c'est très curieux. Si on était passé de la nature à la personne, on aurait compris les deux positions. Le dominicain regardait la nature. Le jésuite regardait la personne. Et tous les deux avaient raison. Mais est-ce que je peux... Alors c'est le jugement qu'il faut. Est-ce que je peux juger d'une manière absolue sans regarder la personne ? En théologie. En théologie, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Avant tout, la nature est toujours présente. Mais la nature est en vue de la personne. L'embryon, il est naturel. Il est naturel, l'embryon, mais il n'est pas une personne. Alors, vous voyez la confusion de croire que l'homme est personne dès le début. Mais non, mais non. Il est nature, c'est sûr. La nature fait que j'ai été embryon. Mais je ne veux pas dire qu'à ce moment-là, j'étais une personne. Alors, vous voyez, c'est toujours cette question-là, nature et personne. Et je crois qu'il faut qu'on soit très précis là-dessus et qu'on arrive à vraiment comprendre les deux. Saint Thomas, et c'est la grandeur de Saint Thomas, c'est qu'il a vu exactement les rapports nature-personne. Et tous les traités de Saint Thomas passent de la nature à la personne, constamment. Et pour bien comprendre Saint Thomas, il faut regarder les deux, ces deux pôles. Qu'est-ce qu'il dit pour la nature? Qu'est-ce qu'il dit pour la personne? La nature vous donne un niveau. La personne vous donne la finalité. La finalité est personnelle. Elle est naturelle parce qu'elle est personnelle. Mais naturelle, je ne sais pas exactement. On se pose la question, quelle est la finalité naturelle de l'homme ? Planter des choux ou contempler. Tandis que quand il s'agit de la personne, ah, très bien. Ma finalité est personnelle. Ma finalité n'est pas commune. c'est le propre de la nature humaine de s'achever dans la personne et donc dans la finalité. C'est ce qui est ultime. Alors, saint Thomas est-il le théologien de la nature ? Il est les deux. Et ça, c'est le Moyen-Âge. Avant, on a beaucoup regardé la nature. Et maintenant, on ne regarde plus que la personne. Il faut bien saisir ça. Donc, comprenons que au point de vue personnel, je suis fait, la nature humaine est faite pour voir Dieu. Je sais que ma nature, elle a l'âme, et par l'âme il y a l'intelligence et la volonté, et donc l'intelligence et la volonté dépassent le point de vue purement naturel. Donc la personne implique l'autonomie, l'intelligence et la volonté. L'exercice, hein, pas uniquement, hein, quelqu'un qui n'a jamais exercé son intelligence, est-il une personne ? Quelqu'un qui n'a jamais exercé sa volonté, est-il une personne ? Et dans la volonté, il y a d'une part l'amour et d'autre part le libre arbitre. Il faut bien voir les deux. L'amour s'achève dans l'amour d'amitié. La volonté libre arbitre, elle a comme sommet la prudence. Pas la contemplation. Pas l'amour d'amitié. C'est pour ça que dans Descartes, on s'arrête au libre arbitre. Et on ne voit pas la contemplation. Et on ne voit plus l'amitié. Il n'y a pas d'amitié chez Descartes. Il est trop angélique. C'est une façon de ne pas voir l'amitié, c'est d'être trop angélique. Il n'y a pas d'amitié chez les anges. Il y a la contemplation. Alors chez Descartes, il n'y a pas l'amitié, pas la contemplation. Parce qu'on dit ordinairement qui veut faire l'ange fait la bête. Alors, qui veut faire l'ange, c'est-à-dire pas d'amitié, il fait la bête. Il n'y a plus d'intelligence sur les moyens. Donc, l'amitié fait partie de la personne. L'amitié vis-à-vis des autres. Alors là, on traitera ça après. Est-ce que il peut y avoir une personne sans amitié ? Je dis, au point de vue humain. Point de vue philosophique. Je ne parle pas du point de vue surnaturel. Le point de vue surnaturel, c'est différent. Puisqu'il y a une personne solitaire et contemplative. Et un solitaire n'a pas d'amitié. C'est le sacrifice très grand et solitaire. La vie commune implique au moins une amitié sous-jacente. Parce que la vie commune serait intolérable sans amitié. Sans amitié, pas poussée à l'extrême, mais sans une amitié tacite. Alors je le prends au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, je crois que l'amitié est nécessaire à une formation volontaire contemplative. Et c'est très important. Et le quatrième élément, ce sera la prudence, qu'on verra la fois prochaine.